previous color on Gucci, he said that, "And right now I'm an old man, but when I come back, I will have a personality of the tiger."
Il avait à peine 2 ans lorsque de grands maîtres bouddhistes annoncent à ses parents que leur enfant est un tulku, c'est-à-dire la réincarnation d'un maître vénéré disparu depuis peu. À cet instant, son destin change. De l'enfant qu'il était dans l'Himalaya indien jusqu'au jeune homme qu'il est aujourd'hui, Kalo Rinpoche a fait un long et difficile chemin.
I asked myself many, many times, am I really him? And then, what am I capable of?
En 1992, lors d'une cérémonie au monastère de Sonada, le Dalai Lama a coupé la dernière mèche de cheveux qui reliait l'enfant au monde laïque.
Giving your whole life, your experience, your time, your energy, your privacy. Kind of not normal for me. The real teacher will get involved with the people and change the society without making a big image of themselves. I start to awake and I start to shake things up. What is so unique about me? There's nothing special. Sometimes I get sick, sometimes I need break, and sometimes I need love. In Call of Duty is very fast. So you just like bam, you know, you just reborn.
Voilà un maître bouddhiste qui joue à Call of Duty, c'est ce qu'il est entre autres possible de voir dans ce film documentaire L'enfance d'un maître, réalisé par Bruno Vienne et Jeanne Mascolo de Philippis. Alors plus sérieusement, la bande-annonce restitue en partie l'atmosphère du film, qui dresse donc le portrait de ce jeune homme de 28 ans, Kalo Rinpoche, reconnu comme la réincarnation du lama. Donc un maître spirituel du même nom. C'est d'ailleurs troublant car si l'on tape son nom sur Google Images, eh bien les photos respectives de ces deux maîtres se retrouvent mêlées, elles apparaissent les unes à côté des autres, en une mosaïque de visages et de couleurs complémentaires. Et le film lui-même mêle des régimes d'images très différents. En fait, il propose une expérience de cinéma plutôt rare, qui est de voir défiler une vie, la vie de Kalo Rinpoche depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui, où il a désormais 28 ans. On voit défiler cette vie car le tournage s'est étalé sur près de 25 ans, donc c'est vraiment un très long projet, un film qui a pris son sens et sa nécessité peu à peu, sur la longueur, au fil des amitiés, des rencontres avec sa famille, et en même temps le film ne prétend pas reconstruire le trajet de Kalo et sa vie dans une vérité continue et objective parce que d'une part il laisse des zones d'ombre, il respecte l'intimité du personnage et puis d'autre part, le montage du film mêle différentes temporalités. On a une ligne principale qui dessine les étapes successives de sa vie, l'enfance, puis la perte coup sur coup de son père et de son maître spirituel Boka Rinpoche, ensuite l'adolescence et la retraite spirituelle, puis l'âge adulte. Et par-dessus cette ligne, cette trame chronologique principale, eh bien, par touches apposées, interviennent des plans du Kalo d'aujourd'hui, en contrepoint du récit dans lequel il livre face caméra sa propre interprétation de ce trajet, c'est les choses qu'il a mis en perspective depuis, la façon dont il conçoit maintenant sa vie, etc. Donc c'est vraiment une forme souple qui est au service de ce personnage et qui permet d'ouvrir des tas de questions plus que de délivrer des réponses fermées, comme l'expliquent les réalisateurs dans l'entretien que nous avons pu mener au cinéma Comédia.
Et puis surtout, on a voulu lui permettre de d'exprimer des choses et puis qu'après on n'est pas en train d'essayer de tirer non plus forcément une morale ou un bilan de tout ça, au contraire c'est très ouvert parce que on sent bien que lui-même est en train de c'est juste en train de progresser et que donc ça ouvre. Ça permet une réflexion, ça ouvre ça pose des questions. Après, on peut aller les trouver parce que on peut s'intéresser à sa personnalité, aller chercher des choses qu'on n'a pas voulu nous exposer comme ça. Mais on avait envie de casser effectivement cette espèce d'idéal aussi des robes rouges, et de montrer à travers lui. Voilà, que le cheminement, ce qui se passe réellement aujourd'hui, en tous les cas pour lui, c'est pas forcément dans tous les monastères, dans tous les héritages pareil, mais en tous les cas, c'est des questions qui se posent et on est ici, on est dans ce monde-là.
On est avec un être humain, quoi, et il y a des choses difficiles, des choses à quoi il doit faire face.
Voilà, donc c'est quelqu'un qui a dû traverser des épreuves très difficiles, comme l'explique Bruno Vienne, et ce, dès son enfance. L'un des titres envisagés par les réalisateurs était d'ailleurs non pas l'enfance d'un maître, mais l'enfance volée, pour exprimer la lourdeur de cette tâche, la responsabilité qui revient au jeune Toulkou de prolonger l'enseignement du maître dont il est la réincarnation. Et lui-même revient là-dessus à plusieurs reprises dans le film. Il n'a pas cessé de se questionner. Est-ce que je peux vraiment assumer ça, cet héritage? Est-ce que c'est normal de vivre ça en tant qu'enfant? Il dit même que certaines croyances ne devraient pas être inculquées à des enfants. Que désormais, par exemple, il respecte la réincarnation, la croyance envers la réincarnation, tout en gardant au fond de lui des réserves, des doutes. On sent qu'il a encaissé des chocs, qu'il a dû apprendre à faire avec... Voilà, toutes ses responsabilités, et c'est vraiment touchant de se retrouver face à cet être en apprentissage qui est pleinement dans son temps, qui est très lucide, qui a beaucoup d'humour, de dérision. Je crois qu'il nous aide à dépasser les apparences, mais aussi les préjugés qu'on peut concevoir parfois au sujet des communautés religieuses.
Mais ce qui en fait quelqu'un
de touchant,
c'est que il s'est intégré à l'Occident, et il est très facilement, d'ailleurs, plus facilement que dans ses traditions, je dirais, et qu'il a pu faire un consensus entre ces deux choses, ces deux courants, et essayer de rassembler autour de... Je pense que ça va être une nouvelle... Il fait partie de la nouvelle génération des enseignants,
Et c'est surtout qu'il a compris.
Qu'il a compris, oui.
Il a compris que le bouddhisme tibétain... Mais les anciens, les vieux, ils ont compris aussi. Le bouddhisme tibétain, il ne peut renaître qu'en Occident. Oui. Puisque c'est fini en Chine, au Tibet, et que les vieux qui sont restés dans l'Himalaya, ils sont tous en train de disparaître. Donc, bien sûr que les maîtres, les grands maîtres, et le Dalai Lama lui-même, c'est lui qui avait envoyé le précédent Kalou Rinpoche en Europe pour justement propager, non pas du prosélytisme, parce qu'ils n'essayent pas de convertir, mais puisqu'il y a un intérêt des Occidentaux depuis les années 60, tous les hippies allaient chercher ça, ils allaient chercher le bouddhisme et essayer de trouver des clés à des questions existentielles qui se posaient et qu'ils n'avaient pas dans leur monde matériel. Cette rencontre, et bien de l'autre côté, il y a eu des bouddhistes tibétains qui étaient, mais véritablement, des détenteurs, c'est pas de la magie ésotérique et tout ça comme il y a pu y avoir aussi, ou penser, ou le sang pas avec le troisième œil et des choses comme ça. C'est quand même une tradition millénaire, une culture qui est transmise de maître à disciple d'une façon très précise, et que ces maîtres-là puissent continuer à voir dans une nouvelle vague de disciples, qu'ils soient occidentaux ou orientaux, ça ne les dérange pas, qui sont curieux et qui ont envie d'écouter et peut-être même de transmettre. Donc les maîtres avaient cette idée-là, ceux qui sont venus en Occident. Sauf que lui, il est vraiment l'image, puisqu'il a grandi à la fois en France et en Europe et en Inde, il est cette image-là, il a compris ça, et il veut être un... Il aurait pu envoyer tout balader, comme il a dit qu'il allait faire à un moment donné. Il est revenu sur ça, et il se dit, tiens, ils ont voulu que je sois comme ça, ils ont voulu me former comme ça, ils m'ont presque détruit, parce qu'il le dit. Hein. Eh bien non, finalement, je reviens fort de ce que j'ai appris, fort de ce que m'a appris la retraite. Hein, il est clair là-dessus. La retraite a été vraiment pour lui une révélation.
Voilà, ce qu'on comprend grâce au film, c'est qu'au cœur du bouddhisme, il y a la relation entre le maître et le disciple, l'enseignement comme guide de la pratique. C'est comme cela que les choses se transmettent et que les ponts peuvent se faire entre des cultures a priori très différentes, l'Orient et l'Occident, parce que c'est une philosophie très ouverte, qui est exigeante, mais qui en même temps s'en remet au destin et au trajet personnel de ceux qui la pratiquent. Et vis-à-vis de ça, Kalou a une parole troublante de sincérité, une parole que l'on sent à la fois portée par ce qu'on a pu lui enseigner et traversée en même temps de préoccupations et de contradictions très personnelles.
À un moment donné, je me suis dit, oh ben, il nous restitue juste ce qu'il a appris comme ça. Eh ben non. Vers la fin, quand on sent comment il reprend les choses en main, comment il dit qu'il veut être un moine Facebook, il le dit, un moine moderne, et qu'en même temps il a envie de transmettre ce qu'il a appris, c'est vraiment, enfin pour moi, qui ne suis pourtant pas bouddhiste, enfin officiellement, je le suis de cœur, je trouve que c'est très sincère, et je me dis qu'il a beaucoup encore à faire. Il a que 28 ans, Et bon, il a eu cette crise existentielle de jeunesse qui a duré un bon moment, mais je crois que là, il est parti pour un long tournant.
La dernière interview qu'il a faite, qu'on n'a pas pu mettre dans le film, il disait j'ai été trahi par les gens de ma famille, par des gens autour de moi, par des gens avec qui j'avais fait toute confiance, avec des gens à qui j'ai donné les clés des monastères et tout, un peu partout. J'ai été trahi par tout le monde. J'ai été trahi même par les gens les plus proches de moi dans ma famille. Et je me suis dit, un jour, j'étais triste pour ça. Je me suis mis à pleurer, je les ai appelés dans mon inconscient, et puis petit à petit, je leur ai pardonné, et j'ai envie de leur donner encore plus d'amour maintenant, parce que je comprends.
Voilà, il comprend, il endure, mais il comprend. Et c'est très beau d'observer au fil du film les yeux du personnage, les yeux de Kalou, de le voir changer de regard et d'expression aux différents âges de sa vie. Dans son enfance, un regard très vif, très souriant, puis plus grave et plus distant lorsqu'il grandit. Et aujourd'hui, un regard plus direct, plus profond, mais aussi plus ambigu. Pour finir, il faut dire que le film, malgré ses parts sombres, malgré les différentes épreuves que Kalou Rinpoche a dû affronter, ouvre sur une part plus lumineuse et une conception de la spiritualité qui sonne comme très moderne et très bénéfique, peut-être dans un monde où l'on a tendance à penser que la croyance est condamnée, que la croyance emprunte soit le chemin de la disparition, soit le chemin des fanatiques. Le film montre qu'un autre rapport à la vie spirituelle est possible, qu'il est possible de concilier à la fois une envie d'être au monde, une vie de jeune homme qui prend du bon temps, qui s'occupe d'une page Facebook, qui fait du sport, qui joue aux jeux vidéo, et qui se trouve être en même temps le responsable spirituel d'une communauté de croyants immense et toujours plus diverse et mouvante que les deux réalisateurs du film ont côtoyé de près. Donc pour finir, écoutons-les nous parler de la communauté tibétaine, les croyants tibétains et de la force intérieure qui les anime malgré les crises historiques et politiques.
C'est fort, et je crois que cette force-là, qu'est-ce qui l'illustre bien ? Ben, c'est que les Tibétains, parce que quand même il y a 100 000 réfugiés tibétains, mais il y a entre 4 et 5 millions de Tibétains qui vivent quand même sous le joug chinois. Bon, on en est à presque 140 immolations. Il y en a un peu moins maintenant parce que les Chinois ont tellement mis la pression partout. Mais le peuple tibétain, il continue à vivre parce qu'il a cette force intérieure. Et il y a plein de Tibétains, j'ai rencontré des cinéastes tibétains qui font des choses au Tibet, qui vivent malgré tout au Tibet. Et je pense que c'est lié à ce qu'inculque cette force qui va au-dessus. Nous, quand on est allé filmer la première fois au Tibet et qu'on a vu tous ces gens pleurer parce que Bruno filmait le retour d'un moine tibétain qui vivait en France et qui venait d'avoir le droit de revenir dans son monastère.
Après,
mais on a vu des centaines de gens, des dames, des vieilles pommes toutes flétries qui étaient là, qui pleuraient, mais toutes les larmes de leur corps, les enfants qui étaient comme de voir leur grand-mère pleurer, et tout le monde pleurait parce que le lama rentrait. Mais on s'est dit, c'est incroyable. Et il nous ressortait tout, et il nous racontait tout.
Et le monastère avait été détruit trois fois,
il avait été reconstruit. Et c'était incroyable.
Ouais.
Incroyable. Et là, on s'est dit que ça mourrait jamais. Et les Chinois essayent de le faire, comme ils font avec les Ouïghours. D'ailleurs, actuellement, on a entendu parler là, du Xinjiang ces derniers temps, et ils ont un peu relâché la chape sur les Tibétains, hein, puisqu'ils s'occupent des Ouïghours. Mais les Tibétains, ils ont pour eux cette force-là intérieure.